La volatilité des marchés inquiète, Pierre-Yves. Là, aujourd'hui, on était en baisse. Mais ça aurait pu être pire parce qu'il y a eu comme un ralliement là, dans la dernière heure. À un moment donné, je pense que le Dow Jones perdait près de 500 points. Et puis finalement, en bout de ligne, ça a été autour de 286 points.
Mais ce qui est intéressant, c'est le retour à l'an dernier. Si on regarde la courbe de la bourse dans la dernière année, c'est comme les deux bosses d'un chameau. Vous partez d'un sommet, vous descendez, vous remontez. Et là, on est exactement où on était environ il y a un an sur le TSX. Au niveau de S&P 500 aux États-Unis, on était un petit peu plus élevé. C'est très intéressant de voir. Et en même temps qu'aujourd'hui, on a une petite baisse, les crypto-monnaies chutent de 2 %. Donc, l'incertitude ne crée pas d'endroit vraiment précis où les gens vont. Sauf qu'aujourd'hui, Tesla qui a augmenté de plus de 1 à 2 %. Pourquoi? Ben parce que Elon Musk a envoyé un courriel. Évidemment, c'est comme le Donald Trump des PDG, à ses employés pour dire « Hey, on devrait vendre 50 000 voitures dans le trimestre. » Et ça a ramené l'action à la hausse. Mais écoute, on était en 2018 éventuellement à 378 $ américains l'action. Et depuis ce temps-là, on périclite. Là, on est rendu à 196 $ environ. Donc, tu vois un peu la volatilité d'un titre que tout le monde avait de l'engouement il y a quelques mois déjà, et là, moitié de valeur pratiquement.
On va parler des créanciers de Caroline Néron qui ont accepté dans une proposition de 96 % la proposition qui leur avait été soumise au début du mois de mai. Et ainsi, Caroline Néron évite la faillite de ses entreprises.
Oui, les entreprises évitent la faillite, effectivement, mais il faut faire attention. Pourquoi les créanciers acceptent? Le syndic se présente devant les créanciers et dit « Voici, les entreprises peuvent payer 16 cents dans pièce. Acceptez-vous. Sinon, c'est la faillite. » Alors, les créanciers se retournent et se disent « OK, c'est quoi nos options? » Un magasin de détail qui n'a que pour actif que des bijoux qui passent date avec la mode et qui se revendent en gros à rabais, qui a des dettes importantes avec des créanciers, qui n'ont pas d'actifs immobiliers importants parce que ce sont des beaux commerciaux, que le réseau de distribution est en baisse parce qu'on vient de fermer des centres de vente, on perd des associations avec la distribution, il ne reste pas grand-chose. Et tu sais le créancier qui est intéressant là-dedans? C'est Revenu Québec. Revenu Québec s'est fait avoir parce que, sans le vouloir, c'était des taxes. Hein? Quand moi, mettons, je vends, ma compagnie, on vend, ou mon travail autonome, on vend des services, on reçoit les taxes au nom du gouvernement, mais ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre fonds de roulement, il faut mettre ça quelque part. Et là, les entreprises Caroline Néron l'ont utilisé. Et le gouvernement a réussi, ou l'agence, à négocier quelque chose, parce que quand on va voir le document, la proposition amendée, hein, c'est écrit proposition, virgule, amendée, soulignée, on voit qu'il y a des garanties personnelles des administrateurs pour rembourser le peu qu'on va rembourser, c'est-à-dire quelques centaines de milliers de dollars. Là. On voit que le 150 000 qui va être remboursé à Revenu Québec ou à l'agence, c'est des revenus qui sont garantis par les administrateurs. Donc, on a ajouté, semble-t-il, ce genre de clause-là selon le contrat que je vois. Et les créanciers, finalement, se font avoir un peu. Écoute, là, tu as une entreprise de bijoux. Il reste juste 5 points de vente officiels plus, évidemment, les points de vente. C'est 5 points de vente de boutique à elle parce qu'il y a d'autres points de vente qui existent à travers le Québec, à travers les boutiques de quelqu'un d'autre. Mais on a fait une radiation de dettes de 2,7 millions. Évidemment, ce qu'il ne dit pas non plus, c'est qu'il y a d'autres dettes qui sont encore là. Hein. La dette de Fiera Capital et une autre dette sont encore là, c'est-à-dire le prêteur à 14,2 % sont encore là. Donc, c'est pas sauvé. L'entreprise n'est pas sauvée. Elle évite la faillite pour l'instant. Mais ça prendra beaucoup de ventes pour couvrir les coûts fixes d'un tel modèle d'affaires. Je ne comprends pas encore le modèle d'affaires, pourquoi il existe dans le fond, mais quand même, c'est impressionnant de voir à quel point, comme créancier, quand la loi est déclenchée puis tu te protèges tes créanciers, il ne te reste plus grand-chose.
La proposition prévoit une distribution de 500 000 $ et les créances non garanties, 3,2 millions.
C'est beaucoup de pertes.
Ben oui, c'est beaucoup. Puis si les sommes qui ont été promises aujourd'hui ne sont pas versées, ben la proposition va être annulée. Là.
Oui,
possibilité de revenir en disant on annule ça parce que vous ne rencontrez pas les exigences de la proposition acceptée telle qu'elle aujourd'hui.
Au-delà de ça, on doit espérer une augmentation des ventes, un maintien des ventes, une capacité à générer de la valeur. Et comme cette entreprise-là est basée beaucoup aussi sur le storytelling, c'est-à-dire démontrer une entreprise qui a réussi, alors tout ça tombe. Ben, ça enlève un peu de glamour alentour du produit.
On termine avec Facebook. 5% de faux comptes estime la compagnie.
Mais la compagnie nous dit, attention, nos faux comptes, on a des mécanismes qui éliminent rapidement les faux comptes. Donc, ce ne sont pas ceux qui sont cumulés, vous voyez, mais il en reste 5% parce qu'on ne peut pas tout détecter. Donc, sur les 2,4 milliards d'utilisateurs mensuels, il y en a qui sont faux. Et c'est pas bon pour Facebook d'avoir beaucoup de faux comptes. Et c'est pour ça qu'on lutte. Pourquoi? Parce que les revenus, quand tu vends des annonceurs des revenus, dont 15 milliards au dernier trimestre, tu leur vends une capacité d'attirer et d'intégrer l'action du client. Et quand le client est faux, il cliquera pas sur tes pubs, il sera pas là, il visera pas, il sera pas visible. Donc, on doit les enlever, ceux-là, comme Twitter a enlevé les comptes un peu pour faire le ménage. Parce qu'en Amérique du Nord, pour un trimestre, le dernier trimestre, un utilisateur nord-américain est payant 30 $, tandis que celui du reste du monde est à 1,89 $. En Europe, c'est 9,55 $. Donc, on voit que le faux compte nord-américain vient nuire à la rentabilité ou aux données indicatives de rentabilité. Donc, on veut en avoir le moins possible pour montrer la vraie réalité.
Merci, Pierre-Yves. À demain.